Salut à tous. La presse, les radios, les télés, Bernard Thibault a enterré hier le mouvement en grande pompe, voir le discours à Marseille. Avons-nous fait un mois et demi de grève pour rien? Rien de rien sur les retraites et des clopinettes sur la décentralisation? Devons-nous courber les chines en chantant « Rendez-vous à l'automne » ou en 2007? Et une semaine, nous étions allés 1 million dans les rues à dire que nous ne voulions pas de la purge ultralibérale que cette droite nous prépare. Allons-nous en rester à aller distribuer des tracts et des pains au chocolat aux candidats au bac? Parce que nous sommes responsables? Où est notre responsabilité individuelle vis-à-vis de nos enfants et de nos élèves? Où est la responsabilité de syndicats qui, comme l'UNSA, crient à la victoire alors qu'ils syndiquent un grand nombre d'athos? Où est la responsabilité de la FSU dans son étourdissant silence depuis quelques jours? Où est la responsabilité de la CGT qu'on Thibault appelle à une grande pétition nationale? Non, non, vous ne rêvez pas. Contre le plan Fillon et à une journée de grève dans 8 jours. Où est la responsabilité de FO qui appelle à la grève générale parce qu'elle est sûre que les 3 autres ne vont pas y appeler? Vous allez me dire de ne pas me tromper d'adversaire, certes, mais Crafarin, Fillon, Sarkozy et consorts cherchent à m'enculer, allez, c'est leur boulot. Mais que les organisations syndicales, parce qu'elles sentent la base bien plus déterminée qu'elles, cherchent à éteindre le feu, ils ne comprennent plus. Je ne cotiserai pas 42 ans. Ma femme ne subira pas les décotes qui l'amèneront au minimum vieillesse. Je n'accepterai pas la remise en cause de l'école publique, laïque et obligatoire, et surtout pas celle de la loi Fallou qui se prépare en catimini. Je me battrai pour que la sécurité sociale ne file pas entre les mains des assureurs et qu'elle permette à tous d'avoir des services de santé dignes de ce nom. Nous serons nombreux à le faire. Avec quels moyens d'action? Devons-nous continuer à faire des grèves comme nous le faisons? Ou devons-nous aller plus loin? Où allons-nous?
Je suis en train d'écouter les messages du répondeur. Eh bien, moi j'en ai marre. J'en ai marre de toute cette anarchie, de tous ces anarchistes. Ça, il y a le fameux livre de François de Clauset, Plus, toujours plus, qui est bien d'actualité. Et il y en a marre de cette bataille de petits privilèges. Farah a raison. Je lui donne raison. Il a raison. Il a toujours raison. Surtout quand il dit que certains pensent davantage à eux qu'à l'intérêt de la France. Et d'autres sûrement, logiquement, d'investir à l'étranger, où ils sont accueillis comme des sauveurs. Il n'y a pas de dégâts sociaux là-bas. Dommage que ce soit toujours ces anarchistes qui battent le trottoir, et pas ceux qui travaillent et qui estiment que le gouvernement a raison de vouloir faire en sorte que les privilèges cessent et que tout le monde paye. Comme il est normal que tout le monde paye, on forme un pays, une démocratie, mais tout le monde doit respecter les autres. Et le premier respect, eh bien, c'est de s'estimer et d'être comme tous les autres et pas faire différemment. Moi, j'estime que ce sont des anarchistes. Bonsoir.
Oui, bonjour Daniel. C'est Jean-Philippe de Joigny. Voilà, je ne sais pas si ça sera pas mon dernier message pour l'été. Je suis écœuré et un peu beaucoup déboussolé. On n'était plus que quelques-uns ce matin à notre assemblée générale. On ne peut plus parler de noyau dur. On s'est autoproclamé pépin dur, mais le pépin dur s'est fissuré et je fais partie de ceux qui ont voté la fin de la grève reconductible. Et lundi, j'irai corriger des copies de BEP et de CAP à Auxerre. Le cœur et les tripes n'y sont plus tout en y étant encore. On a des collègues qui hier soir se sont rendus à une réunion soi-disant publique. En fait, ça c'était sur le papier, sur le journal, parce que ils ont découvert qu'elle n'avait rien de public, mais qu'elle était sur invitation. Réunion tenue par des élus UMP locaux, notre député maire au Berger, notre président de conseil général de Rincourt, un autre député, Monsieur Roland, et les manifestants qui étaient venus participer à cette réunion publique pour donner leur opinion sur les retraites se sont vus interdire l'entrée par des vigiles privés à qui leur ont réclamé des cartons d'invitation, qu'évidemment ils n'avaient pas, parce que pour une réunion publique on n'en a pas besoin a priori. Ils sont restés un certain temps, ils sont partis et les élus ont fini par partir bien encadrés par des policiers et des gendarmes appelés à la rescousse, parce que je pense que ces gens-là ont eu peur du peuple. Ce peuple de gauche qui, dès qu'il ouvre la bouche, se fait taxer de stalinien, nécessairement, ou d'émeutier par ailleurs, ou de casseur par d'autres endroits. Voilà, je suis assez malheureux aussi de me dire que c'est peut-être la dernière fois qu'on a eu l'occasion de tous, ensemble, fédérer un mouvement pour un peu changer les choses et que ça s'arrête là, maintenant. Voilà, enfin bon. Merci pour tout, Daniel, et à bientôt. Au revoir.
Bonsoir, Mermé. Bonsoir, l'équipe. C'est Albert à Marseille. J'espère que la France se retirera de cet accord général du commerce de services. Le peuple n'a pas été consulté et n'a pas voté sur un sujet si important. Il y a eu dissimulation de l'accord. Je suis plus que choqué d'apprendre la privatisation des services publics qui sont les fondations d'une nation républicaine. Au revoir.
Salut Daniel, j'en sors pareil. J'avais une petite réflexion à te poser concernant donc l'histoire donc de la mondialisation. Bon, mais admettons que la mondialisation vraiment domine. Si on garde nos systèmes, je dirais, démocratiques avec élections, quand est-ce que des gens du type attaque, on commencera à les voir en politique, dans la mesure où il n'empêchera que le politique pourra proposer un système, un programme, et de ce programme et de ces normes, permettra à des collectifs et à des associations de pouvoir s'épanouir tranquillement et de balayer du coup le côté toujours trop marchand de la mondialisation. Alors voilà, donc voilà, petite question, et puis savoir si un de ces quatre, on verra tous ces programmes altermondialistes enfin sous la bannière des hommes et proposés à nous électeurs pour qu'on puisse faire notre choix entre collectif et mondialisation productive et libérale. Allez, à plus, Daniel. Ciao.
Oui, bonjour. Je viens d'écouter l'émission là de là-bas si j'y suis. Je résiste pas à l'envie de vous lire la fin d'une lettre que j'ai reçue tout à l'heure, qui vient du Bénin, de Cotonou, d'un ami qui est là-bas, et qui donc termine sa lettre ainsi. À toute fin utile, je vous envoie mon adresse électronique. Les découvertes technologiques ont cette forte emprise sur nous qu'on dirait qu'elles nous emportent et nous écrasent. L'Internet est un facteur de développement, nous dit-on, alors que la chloroquine continue de manquer là où il n'y en avait pas, et l'eau potable continue de s'éloigner de ceux qui ne l'avaient pas à leur portée. Voilà, c'était un petit message de Charles du Bénin.
Moi aussi, je pourrais vous envoyer non pas une lettre du Bénin, mais du Rwanda, où là aussi, les quelques riches sont de plus en plus riches, et les plus pauvres de plus en plus pauvres, pour les mêmes raisons qu'au Bénin, qu'à Java, au Chiapas, à la Courneuve, en Patagonie ou dans le sud du Bronx. Sauf qu'au Rwanda, c'est plus joli, c'est plus fleuri. Rwanda, le charnier fleuri. J'avais trouvé ce titre un petit peu limite, mais hier, à Nyarubuye, les tas de cadavres que nous avions découverts il y a 9 ans autour de l'église de Nyarubuye sont dans une fosse commune, sous un parterre de fleurs, très joli, très fleuri. En fait, le Rwanda et les Rwandais vivent en ce moment, et depuis quelques années, et pour de nombreuses années encore, une expérience à la fois terrible et, comme on dit, passionnante. Ils ont compris que pour survivre, pour tenir les démons en laisse, eh bien il faut de la justice, et pour qu'il y ait de la justice, eh bien il faut de la vérité. Et ils savent, comme tout le monde, que la justice n'est jamais juste et que la vérité n'est jamais vraie, et qu'ici, au Rwanda, plus que jamais, nulle part ailleurs. Alors, la justice est un défi, la vérité est impossible, mais, évidemment, c'est ce mais qui nous passionne et qui nous regarde et que nous vous rapporterons en tâchant d'en extraire la substantifique et universelle moelle. En attendant, voici, alors là, vraiment, c'est ça, une autre moelle substantifique et universelle, Cornelius Castoriadis. En 1996, 7 ans déjà, Cornelius Castoriadis, avec des mots clairs, chaleureux, à la fois nous avait donné des outils et une lampe de poche pour éclairer et démonter notre temps. Et c'était si lumineux qu'on en a fait un petit bouquin et que chaque année, ou presque, on se réécoute l'entretien avec Cornelius Castoriadis. Il me semble que c'est le jour, si je sens, même si je suis loin au Rwanda, qui se passe actuellement en France. Il me semble que c'est le jour avec j'entends des blues, j'entends. Mais voilà, Cornelius Castoriadis nous replace dans le temps long, nous redonne du souffle. Alors, Castoriadis dans un instant, mais d'abord un autre bouquet de messages, 01 56 40 37 37, c'est le numéro du répondeur, mais ça vous le saviez.
Il n'y a qu'une rue qui gouverne Wall Street. En anglais, ça veut dire la rue du mur. La pente, elle est tellement raide. Raffarin. Ouais, salut.
Bonjour, c'est Claudine. Bonjour Daniel et bonjour toute l'équipe. Je vous appelle pour vous alerter à propos du RMI, de la réforme du RMI et de la mise en place du RMA, qui va être une mesure qui va permettre de fournir des esclaves aux entreprises, des esclaves qui ne cotiseront pour les retraites qu'un trimestre par an et qui ne coûteront aux entreprises que à peu près 80 euros par mois. Je suis assez inquiète parce que j'ai parfois l'impression qu'on n'y croit pas et qu'on se mobilise pas assez. Donc on se mobilise pour beaucoup de choses en ce moment. Il faut pas oublier l'insertion. L'insertion, c'est un secteur qui est complètement en péril et qui risque de se casser la gueule, et tout le travail qu'on a fait depuis 15 ans va s'effondrer. Voilà.
Ouais, Daniel, c'est un cheminot de Lyon là qui te téléphone. Donc c'était pour te dire en fait que bon, en fait nous on était en grève depuis le 3 juin. Le 5 juin, ils nous ont dit de la part de la CGT qu'il y avait un préavis de grève pour le 10. Donc ça voulait tout simplement nous dire que le vendredi, il fallait qu'on aille travailler, et le week-end aussi. Et maintenant, on est le jeudi 12, et le jeudi 12, la CGT de Lyon nous dit que de reprendre le boulot, que le conflit est terminé, etc. Donc quand j'entends votre émission et tout ça, ça n'a rien à voir. Thibault, il se présente à Marseille, pour lui, il continue la grève, on ne comprend plus rien, quoi. Donc à mon avis, il y a un coup de la CGT derrière, mais en tout cas, le conflit, il est mort, quoi. Allez, ciao.
Salut Daniel, Pascal de Pleubian, petit village sympa près de Paimpol. Si j'ai bien compris, la conclusion à tirer des mouvements sociaux est la suivante. Le cœur est à gauche, les couilles sont à droite. Vivement que les femmes prennent le pouvoir. Petite info au passage, Attaque 22 organise à Paimpol au centre d'Unan le 26 juin à 20h30 une conférence sur l'OMC et la GCS. PS, mention Utopia. PS, donc, salut aux sages-femmes de la maternité de Paimpol. Allez, salut Daniel et puis merci d'exister.
Voilà donc les messages du jour sur le répondeur de la base Sussisfi, 01 56 40 37 37. On va retrouver Cornelius Castoriadis, donc 7 ans après, mais avant, écoutez bien cette carte postale qui nous est parvenue de Marseille et qui nous a été adressée par Thierry Scharf. C'est donc une carte postale sonore. Meilleur souvenir de Marseille. Quoique le mot meilleur, c'est pas le plus adapté possible, mais en tout cas c'est une véritable perle. C'est une photo sonore comme on aurait eu si peu. Dialogue de deux éboueurs marseillais à l'heure de la reprise. 5 minutes 57, tout y est.
Alors ça y est, on a repris le boulot.
On a repris, contraint et forcé, on a repris. Mais avec une grosse déception à la clé. Pour nous, on n'a rien obtenu. Mais la lutte continue quand même. Hein.
Ouais.
Continuera peut-être dans les urnes.
Alors vous avez voté la reprise là ce matin du boulot. Hein. Vous êtes éboueur de la ville de Marseille. Hein. C'est ça, Marseille, Provence.
Oh, voilà.
C'est une entreprise privée, publique ?
Non, c'est une entreprise publique. Hein. C'est la communauté urbaine. Là. On est vraiment déçus par aucun dialogue. On n'a rien négocié.
Alors, ça fait combien de temps que vous étiez en grève, là ?
Oh, ça fait un paquet de temps qu'on est en grève. 13
jours. 13 jours, je crois.
13 jours. Ah ouais, hein, la ville est dans un état, ça se sent. Hein.
Moi, je suis contre, là, parce que c'est devenu une grève politique. Et à la sortie, les Parisiens, ils descendent, ils font la pluie de Bretagne. Et moi, ça faisait déjà 3 jours que j'étais plus gréviste.
Ah oui, vous aviez déjà repris.
Il y en a marre, maintenant, il y en a marre.
Ouais.
Parce qu'on n'obtiendra rien de plus. Et en définitive, qu'est-ce qu'on emmerde ? On emmerde les Marseillais, et notamment le maire, parce que moi, j'estime que M. Jean-Claude Godet, pour nous, est très gentil.
Moi, j'estime pas qu'il était gentil parce qu'il a aucun dialogue avec nous.
C'est syndicat opposé. Moi, je suis de force ouvrière, lui, c'est CFDT.
Voilà. Voilà.
Et pourtant, c'est lui qui est plus radical, alors. C'est étonnant, ça.
C'est vraiment étonnant parce que je considère que moi, au niveau national, il n'aurait jamais dû se passer ce qui s'est passé. Hein.
Vous n'êtes pas avec Chérec, quoi?
Absolument pas. Voilà. Et je crois que je vais même plus être syndicaliste. Hein. Maintenant, il n'y a qu'à laisser aller, on verra si les jeunes y descendent au milieu de la rue, et ça sera plus grave que nous.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Chérec, monsieur Effo?
Je ne peux pas en parler, je suis la force ouvrière, mais je suis pas content de force ouvrière. Ça fait 38 ans que je milite pour eux, que je fais des cartes pour eux. Je n'ai pas encore payé, je vais leur rendre la carte, et ils iront se faire payer à Plumeau, à Paris, à Blondel, qui roule en voiture et fume des gros cigares comme ça.
Alors personne n'est content dans l'affaire.
Moi, je suis pas trop collègue, d'accord avec mon collègue, pourtant on est amis depuis 38 ans qu'on est...
Ah ouais, 38 ans que vous ramassez les poubelles, là.
Ouais.
Vous, ça vous fait combien de paye en moins, là, ce mois-ci, là?
Sur 13 jours, je sais pas, on n'a pas fait le décompte encore.
13 jours de moins de paye?
Ouais. Ah, si, il faut lever les repos.
Ah oui, non,
faut lever, il y a eu le dimanche et le lundi, les repos, ils sont pas contents.
Heureusement, d'ailleurs.
Mais moi, personnellement, j'ai fait 3 jours de grève.
Le reste, c'est tout?
Je suis venu travailler, le reste.
Alors,
je dis franchement, je suis venu travailler.
Bah, Blondel, il appelle à la grève générale et vous, oui, vous avez 3 jours de grève.
Blondel, il fait ce qu'il veut à Paris. Il est reçu, il mange à droite à gauche et moi, je suis dans la rue avec le balai et je vais avoir 60 ans. Alors Blondel, je m'en fous bien pas mal. Je vous le dis comme je l'entends.
Ah. Vive la solidarité. Voilà, vous voyez, la solidarité entre nous. Allez. C'est comme ça qu'on est, combat. C'est comme ça qu'on est.
Regarde, le barbichette à Paris, il est descendu, non? Il n'est pas descendu.
Moi, j'ai un petit-fils qui a 8 ans et demi. Et j'espère, de tout cœur, qu'il aura les mêmes acquis sociaux que j'ai eu moi. Moi, eh bien sûr, oui, non, mais ça, c'est de l'égoïsme. Hein.
Ça, c'est de l'égoïsme. Attends, résiste, alors, on fait comme on fait, alors? Je sais pas, moi. Moi, ça fait 40 ans que je travaille.
Hein. Maintenant, autre chose. Les grèves, elles sont faites pour déranger. Si aujourd'hui, on ne débranche pas la population et que la population n'est pas consciente, à savoir que ça va toucher leurs petits-enfants. C'est vrai que ça touche, ça sent mauvais, c'est vrai. Mais si on ne fait pas ça, quoi faire d'autre?
Oui, mais là, il a raison, hein, ouais. Je ne peux pas lui donner tort, mais enfin, moi, j'estime que la grève, il y en a marre. Voilà, c'est tout. Parce qu'on a... Ouais, je suis plus d'accord, c'est tout.
La révolution, là, il y en a marre.
Je ne suis pas pour la révolution. Alors moi, je vais vous dire. De façon, moi, je vous dis prochainement, j'ai voté pour ce gouvernement. Donc, je ne devrais pas être gréviste. Je n'ai pas voté parce que le premier tour, il y avait Jean-Marie Le Pen. Non, non, moi, j'ai toujours voté à droite. Voilà, lui, on est opposé. Pour...
Ah, vous n'avez jamais été à gauche, vous?
Ah non, jamais.
Et vous?
Ah, moi, je suis à gauche depuis ma naissance. D'ailleurs, je boite à gauche.
Le général de Gaulle, moi.
Moi, ce qu'il y a, c'est que je ne fais pas d'idées partisanes. Hein. Voilà. Moi, je me bats pour un état de fait. C'est-à-dire que la poubelle, déjà, vous voyez les odeurs qu'il y a, il faut déjà la ramasser. Ouais. On doit presque nous dire merci de ramasser, je m'excuse de l'expression, la merde des autres. N'oublions pas que je gagne que 600 000 francs par mois. C'est-à-dire je suis presque...
600 000 anciens.
Oui, anciens, bien sûr, secondes d'ailleurs. Hein.
Oh, Francis, n'exagère voilà. Pas, Francis.
Je pars à la retraite à 6 000.
Tu pars à la retraite à 7 000.
Je pars à 7 000 de la retraite. Je lève ma mutuelle. Je lève 55 000 francs de mutuelle. Fais ton compte, je gagne le SMIC avec 40 ans d'administration. Je te remercie.
Oui, mais ça c'est vrai, mais tu as raison. Mais qu'est-ce que tu veux faire, Francis? On n'a pas de bac, on n'a rien.
Oui, mais
ça...
Pourquoi celui qui passe le bac cette année, vous allez lui donner du travail?
Écoute, moi, mon fils, il est professeur d'histoire et géographie agrégé. Il a une bonne paye, hein. Voilà.
Ah, ben voilà, l'ascenseur social de l'école.
Ben voilà, moi, je voulais pas aller à l'école. J'étais un âne, comme toi, d'ailleurs. On a le bac à sable, tous les deux.
Moi, je me considère pas comme un âne. Je me considère comme un être humain.
Qu'est-ce que tu veux qu'on nous donne? On n'a pas été à l'école, on n'a jamais été à l'école, à 13 ans on travaillait.
Si on n'est peut-être pas allé à l'école, c'est qu'on le doit peut-être à nos parents, parce que peut-être que nos parents, ils n'avaient pas la richesse d'esprit qu'on a nous.
C'est dans la guerre, ça c'est vrai.
Mais alors, vous seriez prêt à mettre ça à la rentrée, ou de...
Non.
Sur la sécurité sociale, non. Ça vous inquiète pas, ça?
Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, si moi je travaille encore, je ne suis pas parti à la retraite, qu'on ne compte plus sur moi, je le dis carrément et limpide, les gens qui ne comptent plus sur moi, petit fonctionnaire à 7000 francs par mois pour essayer de sauver la sécurité sociale. Ils n'ont rien compris et qu'ils y aillent. Ils sont auprès du précipice. Il faut que tout le monde y tombe dedans. On est en train de nous la lever, la couverture sociale. Il ne faut pas l'oublier.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, mort d'un homme révolté, Cornelius Castoriadis.
Flight number 2, arriving from...
Mort d'un homme révolté, un penseur libre, un titan de la pensée, comme dit son ami Edgar Morin, dans un bel hommage. Le philosophe et psychanalyste Cornelius Castoriadis est mort, et on peut vraiment dire là que c'est un phare qui s'éteint au sens où on l'entend d'une lumière, une lumière du temps des Lumières, mais qui sera évidemment comme ces astres dont on nous dit que la lueur nous parvient bien après qu'ils aient disparu. Corneille ou Casto, Cornelius Castoriadis laisse du grain à moudre au monde et du pain sur la planche à beaucoup. Il renvoie dos à dos le communisme anti-révolutionnaire, qu'il soit stalinien ou trotskiste d'une part, et d'autre part le néolibéralisme avec sa pensée unique, sa religion unique et son intégrisme. Mais pour autant, Castoriadis n'a pas sombré dans la compromission, le cynisme, l'apathie, le renoncement esthète. Et il se pourrait bien que les idées, la pensée, les pensées de Cornelius Castoriadis rencontrent tout à fait notre époque, un peu comme un pétard rencontre l'allumette. On peut se demander pourquoi Cornelius Castoriadis de son vivant a été aimé et connu d'un cercle relativement limité, tout simplement parce qu'il était, comme dit Edgar Morin, énorme et hors norme. Il était le contraire d'un homme de concession, de compromis avec quelque courant que ce soit. C'était un homme d'hérésie, dit Sami Nahir, un homme à rebrousse-poil, c'est-à-dire effectivement un homme libre.
Ce qui caractérise le monde contemporain, c'est bien sûr les crises, les contradictions, les oppositions, les fractures, etc. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est précisément l'insignifiance, c'est-à-dire la querelle entre la droite et la gauche, par exemple, actuellement, elle a perdu son sens. Non pas parce qu'il n'y a pas de quoi y avoir une querelle politique, même une très grande querelle politique, mais parce que les uns et les autres disent la même chose. Depuis 83, les socialistes ont fait une politique, puis Balladur est venu, il a fait la même politique, puis les socialistes sont revenus, ils ont fait avec Bérégovoy la même politique, Balladur est revenu, il a fait la même politique, Chirac a gagné les élections en disant « je vais faire autre chose » et il fait la même politique. Bon, manque de sens de cette distinction.
Pourquoi cette insignifiance? Par quel mécanisme cette classe politique serait-elle réduite à une impuissance? Parce que c'est le grand mot le plus employé en ce moment, c'est impuissance.
Ah non, c'est pas un grand mot, ils sont impuissants, ça c'est certain. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est suivre le courant, c'est-à-dire appliquer la politique ultra-libérale qui est la mode à cette époque, et même le socialisme, ils n'ont pas fait autre chose, je crois pas qu'ils feraient autre chose si j'étais au pouvoir. Et que c'est pas des politiques, à mon avis, c'est des politiciens, au sens de micro-politiciens, n'est-ce pas? Bon, c'est des gens qui chassent les suffrages par n'importe quel moyen, c'est tout.
Le marketing politique.
Le marketing. Ils n'ont aucun programme, quoi. Ils n'ont pas vraiment de programme. Leur but, c'est de rester au pouvoir ou de revenir au pouvoir, et pour ça, ils sont capables de tout. Clinton, par exemple, il a fait sa campagne électorale en suivant les sondages comme ça. Si je dis si, qu'est-ce qui va se passer? En prenant chaque fois l'option gagnante pour l'opinion publique. Comme disait l'autre, je suis leur chef, donc je les suis, quoi. Mais ce qui est de fascinant dans l'époque, c'est comment ça conspire. Comme dans toutes les époques, d'ailleurs. Il n'y a aucun lien intrinsèque entre cette espèce de, comment dire, de nullité de la politique, de devenir nul de la politique, et cette insignifiance dans les autres domaines, dans les arts, dans la philosophie, etc., etc., n'est-ce pas, dans la littérature. Et c'est ça l'esprit du temps. C'est, sans aucune conspiration d'une puissance quelconque qu'on pourrait désigner, tout conspire au sens, respire dans le même sens pour les mêmes résultats, c'est-à-dire la signifiance. Bon, la politique, c'est un métier bizarre, même cette politique-là. Ça a toujours été un métier bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle présuppose deux capacités qui n'ont aucun rapport intrinsèque. La première capacité, c'est d'accéder au pouvoir. Si on n'arrive pas à accéder au pouvoir, on peut avoir les meilleures idées du monde, ça ne sert à rien. Ça, ça implique un art de l'accession au pouvoir. La deuxième, c'est une fois qu'on est au pouvoir, d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de gouverner. Bon, Napoléon savait gouverner. Clémenceau savait gouverner, Churchill savait gouverner. Bon, c'est pas des personnes que j'aime particulièrement, ni qui sont dans mes cordes politiquement. Je décris maintenant un type historique. Bon. Or, rien ne garantit que quelqu'un qui sait gouverner sait accéder au pouvoir. Oui. Alors, dans la monarchie absolue, accéder au pouvoir, c'était quoi? C'était flatter le roi. C'était être dans les bonnes grâces de Madame Pompidou. Pas Pompidou, Pompadour. En fait, c'est un joli lapsus.
On le gardera.
On le gardera. Bon, et Madame Pompidou, la pauvre d'ailleurs, elle ne mérite pas ça. Bon, et puis après, ce qui se passait quand on était au pouvoir, c'était autre chose. Dans la forme de pseudo-démocratie sous laquelle nous vivons, accéder au pouvoir signifie être télégénique, flairer l'opinion publique.
Vous dites pseudo-démocratie. On attaque la classe politique, d'accord. C'est une tradition. Là, vous la définissez donc comme insignifiante, comme suivant le cours de l'opinion. Il y a l'opinion, il y a les citoyens. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces citoyens?
Ben, les citoyens ne peuvent pas foutre grand-chose, parce que je dis pseudo-démocratie d'abord parce que j'ai toujours pensé que la démocratie dite représentative n'est pas une vraie démocratie. C'est-à-dire que ces représentants représentent très peu de les gens qui les élisent, et surtout ils représentent eux-mêmes, ou des intérêts particuliers, ou des lobbies, etc. Et ensuite, même si c'était pas comme ça, dire que quelqu'un va me représenter pendant 5 ans, et que ça c'est irrévocable, ça veut dire que je me dévêtis de ma souveraineté en tant que peuple. Rousseau le disait déjà, les Anglais croient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent des représentants tous les 5 ans, et disait-il, ils sont libres un jour pendant 5 ans, le jour de l'élection. Donc, même ça, c'est pas vrai, parce que l'élection est pipée. Non pas qu'on triche dans les urnes, elle est pipée parce que les options sont définies d'avance, parce qu'on a demandé au peuple sur quoi veut-il voter. On le dit, voter sur ou contre Maastricht, par exemple. Qui a fait Maastricht? Bon, c'est pas nous qui avons fait Maastricht. Donc, la vraie démocratie, c'est, bon, il y a une merveilleuse phrase d'Aristote, qui est citoyen? Et citoyen, quelqu'un qui est capable de gouverner et d'être gouverné. Est-ce qu'il y a 40 millions de citoyens en France en ce moment? Question. Mais pourquoi ils ne seraient pas capables de gouverner? Mais parce que toute la vie politique vise précisément à leur désapprendre à gouverner. Elle vise à les convaincre qu'il y a des experts à qui il faut confier les affaires. Voilà. Et donc, il y a une contre-éducation politique. Au lieu que les gens s'habituent à exercer diverses sortes d'initiatives, de responsabilités, de pouvoir, etc., ils s'habituent. Bon. À suivre ou à voter pour des options que d'autres leur présentent, etc. Alors, comme évidemment les gens sont loin d'être idiots, le résultat c'est quoi? C'est qu'ils y croient de moins en moins, et qu'il y a ce cynisme que nous constatons, l'apathie politique, le cynisme que nous constatons.
Dans cette responsabilité citoyenne, dans cet exercice démocratique, est-ce que vous pensez qu'autrefois c'était mieux, qu'ailleurs aujourd'hui c'est mieux par rapport à la France?
Non, ailleurs aujourd'hui, ce n'est certainement pas mieux, ça peut même être pire, encore une fois, les élections américaines le montrent, n'est-ce pas? Bon, autrefois, c'était pas mieux au sens, c'était mieux de deux points de vue. Dans les sociétés modernes, disons dans les sociétés à partir de la révolution américaine et française, jusqu'à peu près la Deuxième Guerre mondiale, et un tout petit peu après, il y avait encore un conflit social et politique vivant. Les gens se posaient, les gens manifestaient. Ils manifestaient pas pour qu'on ne ferme pas telle ligne de la SNCF, ce qui, je ne dis pas que c'est méprisable, c'est quand même un objectif. Bon, mais ils manifestaient pour des causes politiques, où les ouvriers faisaient grève. Ils faisaient pas grève toujours pour des petits intérêts corporatifs. Il y avait des grandes questions qui concernaient tous les salariés qui étaient au travail. Bon, et ça a marqué ces deux siècles. Or, depuis, ce qu'on observe précisément, c'est un immense recul de l'activité des gens. Et là, on a un cercle vicieux. Plus les gens se retirent de l'activité, plus quelques bureaucrates, politiciens, soi-disant responsables, etc., prennent sur eux. et ils ont une bonne justification. Ils disent, bon, je prends sur moi parce que les gens ne font rien. Oui. Et plus ces gens-là prennent sur eux, plus les autres se disent, bon, c'est pas la peine de se mêler, il y en a ceux qui s'en occupent, et puis de toute façon, il n'y peut rien. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui est tout à fait liée à cela, c'est la dissolution des grandes idéologies politiques. L'idéologie, soit révolutionnaire, soit vraiment réformiste, mais pas réformiste pour rire, qui voulait vraiment changer des choses dans la société, pour mille et une raisons qu'on ne peut pas discuter maintenant, a été déconsidéré, a cessé de correspondre au temps, etc., etc., à correspondre aux aspirations des gens, à la situation de la société, à correspondre à l'expérience historique. Bon, tout le monde nous dit, bon, c'est quand même étonnant, je vais me fâcher quand j'y pense, n'est-ce pas ? Il y a eu cette espèce d'énorme événement qui est l'effondrement de l'URSS et du communisme. Est-ce que vous pouvez me dire une seule personne parmi les politiciens, pour ne pas dire les politicards de gauche qui existent actuellement, qui a vraiment réfléchi sur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et a, comme on dit bêtement, tiré des leçons. Alors que, évidemment, quelque chose comme ça appelle une évolution de ce type, à la fois d'abord dans sa première phase, l'accession à la monstruosité, si je peux dire, le totalitarisme, le goulag, etc., etc., bon. Et puis, dans l'effondrement, méritait une réflexion très approfondie et quelque chose comme conclusion sur ce que un mouvement qui veut changer la société peut faire, doit faire, ne doit pas faire, ne peut pas faire. Zéro! N'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Bon. Alors. Donc, comment voulez-vous? C'est-à-dire, ce qu'on appelle le peuple, les masses, etc., etc., tire les conclusions qu'il peut tirer. Mais il n'est pas vraiment éclairé. Vous parliez tout à l'heure du rôle des intellectuels. Qu'est-ce qu'ils font, ces intellectuels? Bon. Alors, la droite. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant depuis Reagan, Thatcher et puis les socialistes français? Ils ont ressorti le libéralisme pur et dur du début du 19e siècle, qu'on avait combattu pendant 150 ans, qui aurait conduit la société à la catastrophe, parce que finalement le capitalisme, c'est vrai, le vieux Marx n'avait pas tort, parce qu'il avait tort sur un autre plan. Si le capitalisme avait été laissé à lui-même, il se serait effondré 1000 fois, enfin 100 fois. Il y aurait eu une crise de surproduction tous les ans. Pourquoi il ne s'est pas effondré? Parce que les travailleurs ont lutté. Ils ont imposé des augmentations de salaire. Donc ils ont créé des énormes marchés de consommation interne. Ils ont imposé des réductions du temps de travail. Ça a absorbé tout le chômage technologique. On s'étonne que maintenant il y a du chômage, mais depuis 1940 jusqu'à aujourd'hui, le temps de travail n'a pas diminué. Et on hésite, on dit 39 heures, 38 et demi, 37 trois quarts. C'est absolument grotesque. Bon. Donc, il y a eu ce retour du libéralisme, et moi je suis sûr que si ça continue comme ça, enfin je suis sûr, on ne peut jamais être sûr en histoire, mais je ne sais pas ce qui va se passer, moi je ne vois pas comment l'Europe en tout cas pourra sortir de cette crise dans laquelle elle est. Or les libéraux viennent et disent, il faut faire confiance au marché, etc., etc. Mais enfin, ce que disent maintenant les néolibéraux, c'est les économistes académiques eux-mêmes qui l'ont réfuté pendant les années 30. Ils ont montré qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre dans la société capitaliste. C'était pas des révolutionnaires, c'était pas des marxistes. Ils ont montré aussi que tout ce que racontent les libéraux sur les vertus du marché, comme quoi il garantit une allocation, la meilleure allocation possible des ressources, la distribution du revenu la plus équitable possible, c'est des foutaises. Tout ça, ça a été démontré. Ça n'a pas été refuté. Mais il y a eu une grande offensive économico-politique des couches gouvernantes et dominantes qu'on peut symboliser par le nom de Reagan et de Thatcher, et même de Mitterrand d'ailleurs, qui a dit « Bon, vous avez assez rigolé, maintenant on va vous licencier, on va dégraisser l'industrie, hein, à éliminer la mauvaise graisse, comme dit M. Juppé. Bon, et puis vous verrez que le marché à la longue vous garantit le bien-être. »
Pourquoi pas l'opposition à ce libéralisme?
Je ne sais pas. C'est extraordinaire. Bon, on a parlé, il y a une sorte de terrorisme, pratiquement, de la pensée unique, comme on dit, la pensée unique, c'est-à-dire cette non-pensée. elle étudie quand même. C'est la première pensée qui est une non-pensée intégrale, n'est-ce pas? Pensée unique, libérale. Bon, personne n'ose s'opposer. Qu'est-ce que c'était l'idéologie libérale à 5 ans d'époque?
1850?
Oui, c'est ça, 1850. C'était quand même une grande idéologie. Parce qu'on voyait au progrès. Ces libéraux-là, ils pensaient que, par exemple, disons Jean-Louis Atmé, ils pensaient qu'avec le progrès, il y aurait à la fois une élévation du bien-être économique.
Enrichissez-vous.
Hein?
Enrichissez-vous.
Enrichissez-vous. Mais même quand on ne s'enrichissait pas, comme dans les classes dominées, disons, exploitées, on allait avoir précisément moins de travail, des travaux moins pénibles, on serait moins abrutis par l'industrie. C'était le grand thème de l'époque. On se dit, les ouvriers ne peuvent pas voter. Parce qu'ils sont abrutis par l'industrie. Il le dit carrément, Benjamin Constant. Les gens étaient honnêtes à l'époque. Donc, il faut un suffrage censitaire. Bon. Alors après, on a dit, bon, non, parce que le temps de travail diminue, parce qu'il y a l'alphabétisation, il y a l'éducation, il y a des espèces de lumières, qui ne sont plus les lumières subversives du 18e, enfin, qui se diffusent comme ça dans la société. La science se développe, l'humanité s'humanise, les sociétés se civilisent, et comme ça, petit à petit, asymptotiquement, on arrivera à une société où il n'y aura pratiquement plus d'exploitation, où cette démocratie représentative tendra à devenir une vraie démocratie, etc., etc.
Pas mal?
C'était pas mal. Sauf que ça marche pas comme ça. Ça n'a pas marché comme ça, ça marche pas comme ça, c'est-à-dire que le reste s'est réalisé. Mais tout ça, ça n'a pas humanisé l'humanité, ça n'a pas civilisé la société, ça n'a pas adouci les capitalistes, on le voit maintenant, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire c'est pas les hommes, c'est le système. Et donc, ça ne marche pas comme ça, et ça fait que, de l'intérieur, les gens ne croient plus à cette idée. L'idée est une, comment dire, l'humeur, la disposition générale est une disposition de résignation. Même chez les représentants du libéralisme, puis j'ose pas dire plus. Quel est le grand argument maintenant? C'est peut-être mauvais, mais l'autre terme de l'alternative était de moins pire. C'est ça le grand argument.
Oui, ça se résume à ça. C'est...
Hein?
Oui, c'est ça.
Ça se résume à ça. Et c'est vrai que ça joue. Ça joue. Ça. C'est vrai que ça a glacé pas mal les gens. Ils disent, bon, mais si on bouge trop, on va pas arriver à nouveau au goulag, par exemple. Bon. Donc, ça, c'est derrière cette espèce d'épuisement idéologique de l'époque. Et je crois que on en sortira que si vraiment il y a... Enfin, c'est une tautologie de dire ça comme ça, mais enfin, il faut qu'il y ait, il faut attendre, il faut espérer, il faut travailler pour qu'il y ait une ressurgence à la fois d'une critique puissante du système et d'une activité des gens, une participation des gens.
Votre confrère et compère Edgar Morin, en matière de politique, dit une chose que vous connaissez, qui est l'histoire du généraliste et du spécialiste. C'est-à-dire qu'il dit, la contradiction de la politique, c'est qu'il faudrait à la fois, la politique c'est un domaine où il faut être généraliste, hein, et donc c'est une impasse, parce qu'un généraliste c'est un petit peu tout sur mais pas à fond, évidemment, par définition. Et puis c'est une affaire aussi de spécialiste, mais c'est une impasse aussi, parce que le spécialiste il connaît sa spécialité, mais pas le reste. Spécialiste et généraliste, comment vous faites pour faire de tout, avec cette contradiction, un bon citoyen?
Ce dilemme posé comme ça est posé depuis Platon.
Oui.
C'est pour ça que Platon disait, c'est les philosophes qui doivent régner, qui sont au-dessus des spécialistes, parce qu'eux, ils ont, dans la théorie de Platon, ils ont une vue du tout. Mais l'autre terme de l'alternative, c'est précisément la démocratie athénienne. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Athéniens? C'est très intéressant. C'est les Grecs qui ont inventé les élections. Hein. Ça, c'est en fait historiquement attesté. Bon, ils ont peut-être eu tort, mais ils ont inventé les élections. Bon. Alors, qui est-ce qu'on élisait à Athènes? On n'élisait pas les magistrats en général. Les magistrats étaient désignés par tirage au sort ou par rotation. Tout le monde, bon, Aristote. Citoyen, celui qui est capable de gouverner, d'être gouverné. Tout le monde est capable de gouverner, donc on tire au sort. Pourquoi? Parce que la politique, c'est pas une affaire de spécialiste. Il n'y a pas, et pourquoi c'est pas une affaire de spécialiste? Parce qu'il n'y a pas de science de la politique. Il y a une opinion, la doxa des Grecs. Il n'y a pas d'épistémé. Je vous fais remarquer d'ailleurs que l'idée qu'il n'y a pas de spécialiste de la politique et que les opinions donc se valent, c'est la seule justification raisonnable du principe majoritaire. Donc, le peuple décide et les magistrats sont élus au sort, ou désignés par rotation. Il y a des activités spécialisées, parce que les Athéniens n'étaient pas fous, ils ont quand même fait des choses assez considérables, ils ont fait le Parthénon, ils ont gagné des palaises. Dans ces activités spécialisées, la construction des chantiers navals, la construction des temples, la conduite de la guerre, il y a des spécialistes. Donc ceux-là, on les élit. C'est ça l'élection. Parce que l'élection, ça veut dire l'élection des meilleurs.
Sur quoi on se base pour élire le meilleur?
Alors, sur quoi on se base?
Qui me dira que celui-là est meilleur guerrier que celui-là?
Voilà. Alors Qu'est-ce que j'en sais? Bien sûr. Alors là, il y a précisément l'éducation du peuple parce qu'il choisit. On fait une première élection, on se trompe, on constate par exemple que Périclès est un déplorable stratège, mais on ne le réélit pas. Ou même on le réévoque. Vous voyez? Bon. Mais cette doxa, cette opinion dont on peut postuler qu'elle est également partagée, c'est bien sûr un postulat tout à fait théorique. Pour qu'il devienne un tant soit peu, pour qu'il ait un peu de chair, il faut que vraiment ces doxas soient cultivées. Et comment peut être cultivée une doxa concernant le gouvernement? Ben, en gouvernant. Donc la démocratie est aussi, c'est ça l'important, une affaire éducationnelle des citoyens. Et c'est ça qui n'existe pas du tout à l'époque actuelle. Bon, il y a eu récemment, j'ai entendu ça sur Europe 1, un de ces magazines qui publiait une statistique comme quoi 60% des députés, à vous qui ne comprennent rien à l'économie, les députés en France, et ceux-là, ils décident tout le temps, ils votent, ils augmentent les impôts, ils diminuent, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est que le cas avec ces députés, comme avec les ministres, etc., ça, c'est qu'ils sont asservis à leurs techniciens. C'est-à-dire, ils ont leurs experts. Et alors, comme en plus, c'est très drôle. Parce qu'ils ont chacun quand même des préjugés ou des préférences. Alors, si vous suivez de près le fonctionnement d'un gouvernement, d'une grande bureaucratie, moi, je l'ai suivi dans d'autres circonstances, voyez que quand vous dirigez, bien sûr, vous fiez aux experts. Et vous choisissez les experts qui ont les opinions que vous préférez. Donc, vous trouverez toujours un économiste pour vous dire, oui, il faut faire ça. Ou un expert militaire qui vous dit, oui, il faut l'armement nucléaire, ou il faut pas d'armement nucléaire, ou n'importe quoi, vous voyez. Bon, c'est un jeu complètement stupide, et c'est comme ça qu'on est gouverné actuellement, plus ou moins. Donc, dilemme de Morin et de Platon, les spécialistes et généralistes. Les spécialistes au service des gens, c'est ça la question, pas de quelques politiciens, et les gens apprenant à gouverner en gouvernant.
Éducationnel, vous avez dit, et vous dites que c'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait? Quel mode d'éducation vous voyez? Quel mode de partage de la connaissance vous préconisez?
Non, moi je pense...
Vous n'êtes pas quelqu'un qui préconise, de toute façon.
Comment?
Vous n'êtes pas quelqu'un qui préconise.
Non, je préconise pas, mais ce que je pense, c'est que, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer avant qu'on puisse parler d'une véritable activité éducatrice dans le plan politique, parce qu'encore une fois, la principale éducation dans la politique, c'est la participation active aux affaires, et la participation active aux affaires implique une transformation des institutions qui permettent et qui incitent à cette participation active aux affaires, au lieu que les institutions actuelles repoussent, éloignent, dissuadent les gens de participer aux affaires. Bon, donc ça c'est le point capital. Mais cela ne suffit pas. Il faut que les gens soient éduqués, et soient éduqués pour le gouvernement de la société. Il faut qu'ils soient éduqués dans la chose publique. Or si vous prenez l'éducation actuelle, ça n'a strictement rien à voir avec ça, l'éducation. On leur apprend des choses spécialisées. Bien sûr, on leur apprend à lire et à écrire. Bon, très bien, il faut que tout le monde sache lire et écrire. D'ailleurs, chez les Athéniens, il n'y avait pas d'analphabète. Hein. Il n'y avait aucun analphabète. Tous, à peu près tous, savaient lire. C'est pour ça qu'on inscrivait les lois sur le marbre. Tout le monde pouvait les lire. Donc, le fameux adage « personne n'est censé ignorer la loi » avait un sens. Alors qu'aujourd'hui, on peut vous condamner parce que vous avez fait une infraction. Vous connaissiez pas la loi. Et vous dites, vous êtes censé ne pas l'ignorer. Bon. Alors, c'est l'éducation, si on prend l'éducation au sens étroit, l'éducation des enfants, des jeunes, etc., devrait être quand même beaucoup plus axée qu'elle ne l'est maintenant vers les choses communes. Il faudrait comprendre les mécanismes véritables de l'économie, les mécanismes véritables de la société, de la politique, etc., etc. C'est-à-dire, il faudrait une éducation qui soit à la fois où il y ait beaucoup plus d'histoire. On n'est pas capable d'enseigner l'histoire. Les enfants s'amèrent en apprenant l'histoire, alors que c'est passionnant. Et une véritable anatomie de la société contemporaine, de comment elle est, comment elle marche, etc., etc.
Vous êtes psychanalyste aussi, hein,
oui.
Qui fait peut-être la richesse de votre pensée, c'est aussi ce regard psychanalytique sur le monde. C'est pas si fréquent d'avoir plusieurs regards comme ça sur une chaîne. Raoul Weinegem a publié un livre dont le titre est « Nous qui désirons sans fin ». Et de ce
délirons.
Nous qui désirons.
Nous qui désirons sans fin.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que de toute façon, il y a cet irréductible désir qui fait que l'histoire continue?
Mais de toute façon, il y a un irréductible désir, et encore. Là, je sais pas si on aura le temps, on entre dans un gros chapitre. Parce que ça, c'est pas vrai, c'est un phénomène relativement moderne. Si vous prenez les sociétés archaïques ou les sociétés traditionnelles, il n'y a pas un irréductible désir. On parle pas là du désir du point de vue psychanalytique, on parle du désir tel qu'il est transformé par la socialisation des gens. Or, ces sociétés sont des sociétés de répétition. Bon. Alors, là, précisément, et surtout dans l'époque moderne, il y a une sorte de libération dans tous les sens du terme, par rapport à des contraintes qui étaient les contraintes de la socialisation des individus. C'est-à-dire, tu prendras une femme dans tel clan, dans telle famille, tu auras une femme dans ta vie, si tu en as deux ou deux hommes, ce sera en cachette, tu auras une transgression, etc. Tu auras un statut social, ce sera ça. Bon. On est entré dans une époque d'illimitation dans tous les domaines, et c'est ça, nous qui avons le désir infini, vous comprenez. Or, cette libération est en un sens une grande conquête. La question de revenir dans une société de répétition. Mais il faut aussi apprendre, et ça c'est un des très grands thèmes, apprendre à s'auto-limiter individuellement et collectivement. La société capitaliste maintenant est une société qui, à mes yeux, court à l'abîme de tous les points de vue, parce qu'elle est une société qui n'essaie pas s'auto-limiter. Et une société vraiment libre, une société autonome, comme je dis, devra savoir s'auto-limiter.
Interdire?
C'est pas interdire au sens répressif, mais savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ou qu'il faut même pas essayer de faire, ou qu'il faut pas désirer. Par exemple, par rapport à l'environnement. Quand je dis, par exemple, j'écris que nous devrions, dans une société libre, nous vivons sur ces planètes merveilleuses que nous sommes en train de détruire. Et quand je prononce cette phrase, je repense aux merveilles de cette planète. Je repense à la mer Égée, je repense aux montagnes enneigées, je repense à la vue du Pacifique depuis un coin d'Australie, je repense à, je sais pas, à Bali, aux Indes, à la campagne française qu'on est en train de démolir, de désertifier, etc. Bon, c'est une merveille. On est en train de la démolir. Qu'est-ce que nous devrions faire? Je pense que nous devrions être les jardiniers de cette planète. Il faudrait la cultiver. La cultiver comme elle est pour elle-même. Et trouver notre vie, notre place relativement à cela. Et ça, c'est une énorme tâche. Et ça, ça pourrait absorber une énorme partie des loisirs des gens. Libérés par un travail stupide, productif, répétitif, etc. Or ça, évidemment, c'est très loin, non seulement du système actuel, mais de l'imagination des gens actuellement. Vous voyez? L'imaginaire de l'époque, comme je dis, est très loin de cela. Et c'est cet imaginaire de l'expansion illimitée, de l'accumulation de la Kaamelott, etc., etc., d'une télé dans chaque chambre, deux micro-ordinateurs dans chaque chambre, et dans chaque pièce de la maison. C'est ça qu'il faut détruire. Tout dépend de ça. Le système s'appuie parce qu'il y a cet imaginaire qui est là et qui fonctionne.
Ce dont vous parlez là sans cesse depuis tout à l'heure, c'est la liberté.
Oui.
Derrière ça, il y a la liberté. Alors vous dites, ah oui, mais ça c'est très lourd, c'est difficile, il faudrait... Et ça, c'est difficile, etc. Difficile, liberté.
Ah oui, la liberté, c'est très difficile, oui. Il est très facile d'être...
La démocratie difficile.
Démocratie difficile, parce que liberté difficile, oui, absolument. Parce que c'est très facile de se laisser aller, c'est l'homme est un animal paresseux, on leur a dit. Là encore, je reviens à mes ancêtres. Il y a une phrase merveilleuse de Thucydide, je sais plus dans quel discours.
Sacrés ancêtres, hein.
Sacrés ancêtres. Il faut choisir, se reposer ou être libre. Je crois que c'est Périclès qui dit ça aux Athéniens. Si vous voulez être libre, il faut travailler. Vous pouvez pas vous reposer. Vous pouvez pas vous asseoir devant la télé. Vous êtes pas libre quand vous êtes devant la télé. Vous croyez être libre en zappant comme un imbécile. Vous êtes pas libre. C'est une fausse liberté. Donc, liberté difficile, parce que liberté, ça veut dire à la fois une activité, c'est pas seulement l'âne de Buridan qui choisit entre deux tas de foin. Bon, liberté, c'est l'activité. Et liberté, c'est une activité qui, en même temps, s'auto-limite. C'est-à-dire, c'est que elle peut tout faire, mais elle doit pas tout faire. C'est ça le grand motto, pour moi, de la démocratie et de l'individu libre. Je peux tout faire.
La liberté, c'est les limites. Philosopher, c'est établir les limites.
Non, la liberté, c'est l'activité, et l'activité qui sait se poser ses propres limites. Et philosopher, c'est la pensée, et c'est la pensée qui sait reconnaître qu'il y a des choses que nous ne savons pas et que nous ne connaîtrons jamais.
C'était Là-bas si j'y suis. Merci à Cornelius Castoriadis et à Thierry Scharf pour son reportage à Marseille. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Assistante Joël Levert, assistant Coy Nguyen. Le chef répondeur, c'est Christophe Imbert. Et à la réalisation, Antoine Chao. Pour laisser vos messages, le répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. Le fax 01 56 40 41 07. Et puis je vous rappelle que Là-bas si j'y suis a son site internet sur franceinter.com pour laisser vos mails, avoir des détails bibliographiques ou retrouver des archives de l'émission. Vous pourrez le faire en allant sur franceinter.com, rubrique émission, et cliquer sur Là-bas si j'y suis.